The time is 2:39 p.m. on November 19th, 2013. We will momentarily begin a new session with the ALAC and the ATRT-2 at Buenos Aires, ICANN 48.
Did you wish to engage the people on the side lanes as well, just so we can have? We'll just put two. Matt, here. In case people want to come this side, it's right here. In case you want to speak, there's a mic here. Okay, during the conversation. So in case you just wanted.
OK, everyone, let's get going. Could we have a recording on, please?
On peut commencer, s'il vous plaît? Tout le monde est parti.
We're waiting for someone from the technical.
On attend quelqu'un de l'équipe technique qui nous dise si on est en train d'enregistrer ou pas. Ah, on me dit qu'on est en train d'enregistrer. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui parle. Bonjour tout le monde. Nous voilà pour la séance de l'ALAC avec la TRT2. La TRT2, c'est la deuxième équipe de révision de transparence et de redevabilité. Et on a Alan Greenberg qui est avec nous, c'est l'un des vice-présidents. Et on a aussi quelqu'un d'autre ici dans la salle, je crois. Bienvenue tout le monde. Nous allons faire de cette séance quelque chose de très attractif. La TRT2 est là pour qu'on fasse nos contributions à son rapport final qui est en ce moment publié pour commentaire public. Je suis sûre qu'ils vont pouvoir nous expliquer ce qui va se passer. Je sais que vous n'avez pas tous pu lire le rapport dans son texte complet, mais il y a une déclaration de l'ALAC qui est en train d'être rédigée en ce moment. Ça a été publié sur le wiki. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder le wiki directement. Et on va reprendre certaines de ces questions. Mais on a d'autres questions à poser ici, à reprendre ici. Et c'est une occasion pour ce comité, le comité consultatif à large. Et donc, ce n'est pas seulement l'ALAC, mais tout le monde qui est dans la salle a l'occasion de faire des commentaires et d'exprimer son point de vue. La fonction de l'équipe de révision de la responsabilité, la redevabilité et la transparence de l'ICANN suit l'affirmation d'engagement qui était firmée entre l'ICANN et le ministère de commerce des États-Unis. Je ne sais pas quoi d'autre ajouter ici. Peut-être si quelqu'un veut parler, nous dire quelques mots de présentation, on devrait peut-être passer la parole à Brian. Merci Olivier. Je voudrais que l'on passe à la diapo qui montre les catégories des recommandations. On a une séance ici où on est venu pour vous entendre, on ne venait pas parler. À ce point-là, donc à ce stade du processus, on cherche à ce que vous nous dites quelle est la recommandation qui vous semble être bien et quelle recommandation vous semble être hors sujet, n'importe pour quelle raison, et que vous justifiez pourquoi vous ne pensez pas que les recommandations sont appropriées. On a des catégories aussi, une liste des catégories des problématiques sur lesquelles on a fait des recommandations depuis l'équipe de redevabilité et de transparence. Dans notre proposition, on a l'espace de commentaires, on a une période de commentaires qui conclura demain et la période de réponse commence le jour suivant jusqu'au 13 décembre. Donc si vous avez des commentaires à faire et vous ne les avez pas envoyés, il faut les envoyer avant le 30 novembre. On va essayer d'intégrer tous ces commentaires, on fera de notre mieux et on les remettra au conseil d'administration le 1er décembre. Donc vous avez la parole, on est intéressé à voir vos recommandations sur la version préliminaire de nos recommandations. Olivier Crépin-Leblon, bien telle qu'est l'habitude dans notre salle, on a l'interprétation en espagnol et en français, et dans cette occasion en portugais. Donc dites vos noms au moment de parler, s'il vous plaît. Oui, on va commencer immédiatement avec Rinaldi Abdulrahim. Merci Olivier, je suis Rinaldi Abdulrahim. Je voudrais partager mes pensées par rapport aux recommandations. En général, je voudrais féliciter l'équipe ATRT2 parce que je crois que vous avez fait un très bon travail. Il n'y a pas beaucoup de recommandations avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ce qui est excellent. On reprendra les recommandations une à une si ça ne vous gêne pas. Par rapport à la première recommandation pour le développement de mesures objectives pour la qualité des membres de conseil de la CAN, aucun problème. Pour la deuxième recommandation, ça me semble un peu étrange. Je pense que c'est l'ensemble de développement de paramètres pour mesurer l'efficience ou l'efficacité des membres du conseil et voir les niveaux d'amélioration. Il faut séparer cela parce que les liens entre les deux ne sont pas très clairs. Merci. Oui, je parlerai plus lentement. Pour ce qui est du développement de paramètres pour mesurer l'efficacité des fonctions des membres du conseil, vous avez fait un élargissement explicite de cette recommandation. Vous avez parlé d'un mécanisme de rapport associé à ces paramètres tant qu'il ne s'occupe pas des ressources humaines et d'autres questions confidentielles. Et bien que la publication des matériels de formation du conseil sont bons parce que ça aide à la communauté, je suggère de créer une sous-catégorie des recommandations ou de les faire une recommandation indépendante. Pour ce qui est de la troisième recommandation, de la conduite d'études pour déterminer si la conduite et les qualifications des membres du conseil ont amélioré dès que l'on a commencé à payer des salaires. En général, il y a du soutien pour cette recommandation, mais je suggère que l'équipe et l'étude fassent la distinction entre les différents groupes de candidats, parce qu'on a des candidats qui viennent du NOMCOM et des candidats qui viennent des groupes de parties prenantes. Et je voudrais aussi suggérer que ces études soient orientées envers la capture des conséquences non prévues de ce processus. Pour les différentes parties prenantes, on pourrait avoir de différents effets et ça pourrait affecter les groupes de parties prenantes qui y surgissent. Puis le numéro 4, de développement de mécanismes des consultations avec les ESSO et les AC, il y a des problèmes qui doivent être abordés au niveau du conseil. Il y a du soutien pour cette recommandation parce que cela éliminerait la possibilité d'avoir un agissement isolé du conseil par rapport aux problématiques intercommunautaires. Numéro 5, sur la portée de la réduction, il n'y a pas de problème. Et le numéro 6, sur les recommandations liées au GAC, il n'y a pas de problème. Rinalia dit Olivier, il faut ralentir un peu parce que je vois que Brian est en train de frapper vite fait, très vite, et personne n'arrive à comprendre si vous allez trop vite. Je voudrais qu'on fasse une pause entre recommandations pour voir si le reste de la communauté voudrait ajouter ou suggérer quelque chose.
Sorry, Alan.
Alan Greenberg.
Just a question.
Il y a une question. Vous avez dit qu'il y avait un document sur le wiki. Dit Alan, est-ce que ce document correspond à ce que vous dites? Ce serait utile pour que Alan, pour que Brian n'ait pas à tout frapper. Si vous me dites quel est le document, il pourrait le consulter. Rinaldi a qui dit oui, c'est presque pareil. Il y a eu des modifications. Oui, Rinalia, vous pouvez reprendre, Olivier. Merci, dit Rinalia. Pour la 7e recommandation, c'est une recommandation importante. Le 6 était sur le GAC, et je pense qu'on est tous d'accord avec cette recommandation. Il me semble que le GAC a besoin de capacités supplémentaires pour ce qui est du soutien du secrétariat pour faire tout ce que vous demandez d'eux. C'est important. Numéro 7, les mécanismes de commentaires publics. C'est quelque chose qu'on tient à cœur et c'est critique pour nous. J'espère qu'il y ait beaucoup de soutien de la LAC pour cette recommandation. Et on suggère que chaque point nouveau qui est publié par la pour consultation publique soit accompagné de séances de formation et de renforcement de compétences, parce qu'on veut élargir la participation et établir les bases pour d'autres contributions. En outre, je crois qu'il est très important de permettre suffisamment de temps pour que les communautés telles que les nôtres consultent, parce que nous, on a des mécanismes de consultation intra-régionaux et intercommunautaires, comme on a dit dans d'autres réunions. C'est quelque chose de très important pour nous. Olivier Crépin-Leblanc dit, oui, Rinalia, j'allais ajouter en tant que présidente de la LAC qu'il faut avoir les considérations linguistiques aussi. Oui, j'arrive, dit Rinalia. Olivier dit non, mais particulièrement pour les commentaires publics. On aura besoin de plus de temps pour les traductions. Olivier dit, Avery a une question. Merci, c'est Avery Doria qui parle. J'ai juste une question. Est-ce des commentaires personnels ou qui ont été accordés par la LAC? Parce que la façon dont vous le lisez me fait penser, en fait, que c'est des recommandations de la LAC. Oui, je rédige la déclaration, dit Rinalia. Elle a été présentée pour le vote et c'est probable que ce soit du consensus. Parfait, merci, dit Avery. Olivier qui dit, je vois les regards de mes collègues de la TRT2 qui se disent, je suis contente de ne pas avoir à prendre toutes les notes en ce moment. Hein. Rinalia, vous avez la parole. Rinalia dit, oui, vous avez fait une contribution. Donc voilà la contribution, n'est-ce pas? Bien. Pour ce qui est du numéro 8, pour le soutien de la participation publique des services linguistiques, on soutient la recommandation de réviser la capacité du département de services linguistiques dont la communauté a besoin pour les services linguistiques et on suggère que le département de services linguistiques travaille avec la communauté pour établir des hiérarchies dans la documentation de matériel pour la traduction et cela peut différer entre différentes unités constitutives. Les interprètes sont terrifiés, Rinalia dit Olivier. Pardon, dit Rinalia, j'ai ralenti même. D'ailleurs, j'étais pire. En plus, je crois qu'il y a une recommandation aussi pour que le département de communication soit incorporé, parce que la traduction ne suffit pas. Lorsqu'on veut diffuser un matériel et avoir une participation améliorée à titre au niveau mondial, il est compréhensible, mais pas pour les experts. On a besoin d'un matériel qui soit bien diffusé en langage simple pour la diffusion. Je peux continuer? Un peu plus lent, oui, d'accord, Ellie. Le point numéro 9 est très important, c'est la considération des contributions pour les processus de prise de décision et d'appel. Il y aura beaucoup de soutien pour cette recommandation, je crois. La recommandation 9.1 sur les mandat du conseil pour les avis formels, ce qui est critique pour nous parce que ça garantit que l'avis ou le conseil formel des comités est considéré par le conseil, même si on voit qu'il y a déjà un mouvement en ce sens, cela va le rendre formel et c'est très important pour nous. Et on reçoit bien sûr des réponses de leur part, ce qui serait très bon. On croit aussi que la recommandation 9.3 sur la révision du rôle de l'ombudsman serait très importante parce que le président de la LAC et la LAC ont déjà consulté l'ombudsman dans le passé avec des résultats positifs, mais il y a des services qui nous ont été fournis qui n'ont pas été sanctionnés par les statuts, et je pense que cela devrait être modifié. On passe à la recommandation numéro 10. Ce serait d'améliorer l'efficacité des délibérations intercommunautaires. C'est assez long, en fait, ce qu'on a à dire. Il y a du soutien pour cet ensemble de recommandations parce qu'elles améliorent les processus de PDP de la GNSO et permettent une meilleure participation des communautés qui ont des barrières telles que la communauté à large. Et je pense que vous avez une idée de ce que sont ces barrières à travers les contributions qui ont été présentées à la TRT2. Parce que c'était une liste avec des puces de ce qui était important pour notre communauté. Particulièrement, on croit que les recommandations 10.1 et 10.3 sont extrêmement importantes pour garantir la participation mondiale dans la délibération intercommunautaire. Et nous croyons que pour réussir, vous allez avoir besoin de ressources financières à cet effet. Et donc, je pense que dans d'autres parties de la recommandation, on veut que ICANN soit très conscient de tout ce mouvement intercommunautaire pour avancer. Mais ici, on a un domaine spécifique de déboursement qui doit être reconnu. L'initiative stratégique mentionnée dans la recommandation 10.3 me semble devrait mener à un plan avec suffisamment de ressources pour la mise en œuvre parce que ça facilitera la participation de volontaires des secteurs géographiques et des régions géographiques qui ne sont pas assez représentés, des groupes démographiques qui ne parlent pas l'anglais, ceux qui ont des traditions non occidentales et ceux qui ont qui sont intéressés aux politiques des nouveaux GTLD dans les différentes couches. Et dans cette liste, je voudrais que vous considériez les régions qui ne sont pas assez représentées, les régions géographiques. Et vous avez dit région et pas secteur. Et cela a été mentionné hier parce qu'on peut dire qu'on couvre une région, mais en fait, la participation n'est pas représentée dans tous les pays. Ils sont représentés dans un pays, mais pas dans un certain secteur du pays. Donc, il faudrait inclure le mot secteur là. Et dans la partie principale du rapport, vous demandiez avoir des rapports sur le fait de permettre le 10.3 pour faciliter avoir des volontaires de ces catégories sous-représentées dans tous les secteurs et pas seulement dans les PDP et de la GNSEO pour garantir que les processus d'aide république soient garantis non seulement dans la GNSEO mais dans toutes les assos, ce qu'on soutient fortement. Olivier Crépin-Leblanc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à ce point-là? Non? On peut continuer alors. Rinalia qui reprend la parole. Sur le point 11, on n'a pas de problème. La recommandation 12 aussi, pas de problème. Et je finirai avec deux idées et une question. D'une part, il me semble qu'il y a une tension entre les recommandations pour accélérer le processus de PDP et les délais de consultation requis pour permettre la participation mondiale. Parce qu'on a identifié cela comme un défi, on a besoin d'un effort d'experts, mais vous dites qu'on a besoin d'accélérer les PDP. Donc c'est une tension qu'on doit en fait équilibrer. Et puis ce n'était pas vraiment un problème, mais plutôt une pensée qui a été transmise par les personnes qui ont préparé l'étude sur les PDP, sur l'efficacité du processus PDP de l'ICANN, sur l'intérêt ou un registre maintenant avec les programmes des nouveaux GTLD. Un opérateur peut aussi être un bureau d'enregistrement, il peut être un membre de différentes unités constitutives telles que des commerciaux. Et la question est comment cela affecterait la transparence et la redevabilité. S'il va y avoir un requis de transparence qui déclare cela pour que l'on sache ce qui arrive, ça c'est une question qui me vient à l'esprit. Donc comment peut-on s'occuper de cette avance? Et puis lorsque je vois les recommandations 12 en avant, apparemment le processus de révision que vous avez entamé était un défi et l'organisation ne semblait pas être prête pour ce faire. Donc ma question est comment on peut résoudre cela pour avancer. Merci. Merci Renal, dit Olivier. C'était compliqué de te suivre, hein? Maintenant, tout le monde peut prendre la parole pour des questions et des commentaires. Avedoria qui prend la parole. J'ai une question. C'était merveilleux comme compte-rendu. Mais est-ce qu'il manque des recommandations à votre avis? Et je pense que peut-être quelqu'un d'autre pourrait répondre sur s'ils étaient préparés ou pas. Ils pourraient mieux se préparer dans l'avenir et c'est ça qu'on recommande. Mais s'il y avait des recommandations additionnelles ou supplémentaires qui nous manquaient, je voudrais savoir. Ou alors, avant. Quelqu'un d'autre va le dire. Merci, Avery. Maintenant, Carlton Samuels, dit Olivier Crépin-Leblanc. C'est Carlton Samuels. Merci, Olivier. Je pense que ce n'est pas une recommandation qui manque, en fait, mais hier, lors d'une conversation avec d'autres gens, on discutait les défis pour l'ICANN dans sa mondialisation. Et quelqu'un a dit qu'une partie du problème à reconnaître était que l'ICANN n'est pas une organisation de charte en soi-même, issue d'un traité. Donc les mécanismes manquent peut-être pour ce faire. Il y a des mécanismes qui devraient être ajoutés. Quelqu'un a mentionné la possibilité de mondialiser le AOC, l'engagement de, l'affirmation d'engagement. Est-ce avec un seul gouvernement, et donc pourquoi pas le faire avec tous les gouvernements? Et je me suis dit, pas mal. C'est une question intéressante. Et je vous la pose parce que ça m'intéresse. Olivier écrit par le blond, oui, ça là. Oui, Salanita Tamanika Iwemaro, pour le procès verbal. Je pense à l'ESSAC. À l'ESSAC, hein. L'ATRT pourrait considérer cela parce qu'il y a eu des discussions. Ça ne s'est pas fait sur la liste régionale d'at-large, mais ça a été discuté au sein de ma région, en tout cas. Et on a parlé de la perception qu'on avait des huis clos. Voilà, d'une part. Donc, on voit que la sécurité a une deuxième instance. Ça requiert de la confidentialité. Alors que, lorsqu'en tant que communauté, on demande à avoir certaines réponses, on nous donne à chaque fois rien. On se retrouve à huis clos. Et puis, d'autre part, on a une perception aussi, une sensation de que c'est une alliance fermée, qu'il s'agit d'une loge, en fait. Et on ne nous dit pas pourquoi la participation des différentes communautés n'y est pas forcément. Je sais qu'il y a des membres qui viennent de l'Afrique, qui travaillent à ESSAC, et il y a des gens d'autres parties du monde autre que des États-Unis, mais on a cette perception que ce n'est pas assez global. Donc on a des défis pour les gens, on a le renforcement de compétences qui devrait être plus ouvert dans le public. Mais si vous voulez que ce soit plus ouvert pour la CAN, il faut que vous soyez plus introspectif dans les différents comités et que vous engagez la communauté dans la discussion sur comment on pourrait avoir un traitement plus acceptable, et ça doit être plus global que ce ne l'est à présent. Olivier Crépin-Leblond, merci Salah.
Nous avons maintenant Holly Wright et ensuite Evan Leibovitch. Holly, juste un commentaire sur la recommandation liée à l'Ombudsman. Et j'aime bien l'expansion de la juridiction de l'Ombudsman, mais toutes les plaintes qu'il reçoit sont à l'extérieur de sa juridiction, ou une grande partie, et ce qui fait que les personnes qui pourraient être utiles pour savoir pourquoi cette juridiction qui est étendue va lui permettre d'aborder certains problèmes. Il y a des informations et qui font qu'une grande partie des personnes qui vont le voir, d'après ce qu'on nous a dit, ne sont pas satisfaits par ces services d'Ombudsman. Donc, on voudrait savoir si on pourrait au moins dire à ces gens à qui ils doivent s'adresser pour porter plainte, si l'Ombudsman ne peut rien faire dans leur cas. Merci, Holly. Nous avons Evan et ensuite Salah. Evan Leibovitch, je voulais juste... On a dit ce que l'on aimerait et ce que l'on a fait. Et moi, je voulais ajouter que ICANN voulait ajouter une partie en bas de son site Internet pour que chacun puisse ajouter quelque chose. Et à ce moment-là, on pouvait avoir des plaintes, des questions de conformité qui faisaient que certaines personnes avaient été rejetées pour des questions valables ou pas. Hein. Et donc, les personnes pouvaient au moins recevoir une explication de la non-conformité de leur présentation. Si ICANN a la possibilité de faire quelque chose, il faudrait au moins que les gens sachent pourquoi leur demande est rejetée. Je pense qu'au moins c'est une question de politesse, si ce n'est pas une question de transparence, hein, qu'on puisse dire aux gens on ne peut pas accepter votre demande pour telle ou telle raison. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec la déclaration de Renalia et la déclaration à laquelle Renalia fait allusion. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle dans ce sens. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf peut-être un point ici sur lequel il faudrait faire l'accent. Le premier est mon expérience personnelle. J'ai eu plusieurs expériences dans le groupe de travail de la GNSO et je suggérerais que dans certains cas, cela offre une vue très précise de quelqu'un sur qui appartient à la communauté de bénévoles qui n'ont pas un enjeu financier et qui affrontent des gens qui luttent pour leur marque commerciale, pour leur business, etc. Plus récemment, Alain et moi, nous avons travaillé et un peu avec le groupe de travail qui travaille sur le problème de la Croix-Rouge. Ça a été très difficile de participer à ce groupe parce qu'on est dans un groupe dans lequel il y a très peu de gens qui représentent les utilisateurs finaux et dans lequel il y a énormément de gens qui sont payés pour être là pour travailler. Donc, il est très difficile d'essayer d'avancer et de faire entendre le point de vue des utilisateurs finaux. On en est à un point où tout le monde accepte l'affirmation d'engagement, disent on pense d'une façon, mais qu'en même temps, et on sait que la communauté dans son ensemble, qui travaille au quotidien, a une sensation, pense d'une façon, et les gens avertissent, il y a un tel problème qui va arriver, les gens sont d'accord, mais il y a des divergences de point de vue dans la communauté. Donc je pense que c'est un bon exemple que je peux vous donner. Il y a d'autres cas aussi dans lesquels, des cas que j'ai vécu moi-même ou des expériences que j'ai eues dans des groupes de travail, des personnes qui ont été directement intimidées. Je ne suis pas une personne timide. Les personnes que je connais ne sont pas des personnes timides non plus. Et quand même, on a du mal avec cela. Il y a une série de types de personnalités, de culture dans le monde entier qui sont très mal à l'aise lorsque ils doivent parler de l'intérêt public devant une salle de pleine. Et je pense que ce sont des obstacles importants à la participation. J'ai vu des gens qui rentraient et qui repartaient parce qu'ils étaient épuisés, ils étaient intimidés, ils avaient du mal à faire passer vraiment le message. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de défendre les intérêts de la société civile et des utilisateurs finaux. Et ça devient de plus en plus difficile. Merci, Evan, dit Olivier Crépin-Leblanc. Il y a une question aussi culturelle. Vous avez raison. Nous avons Salah. Et ensuite, Carl, s'il m'a semblé. Bien. Salah, vous avez la parole. Merci, Olivier. Salah Nieta, Tamani Kaiwemaro. Et sur la question des gouvernements des corporatifs et des mécanismes les concernant, ICANN est une organisation complexe et unique. Elle est différente des autres entités et corporatives. Et il faut noter qu'il y a des principes comme l'IASCO et ce genre de choses qui sont utilisées mondialement dans différentes juridictions. Et je voudrais ajouter que j'aimerais demander à la TRT de considérer. Je ne sais pas si cela a été abordé dans vos discussions et dans vos délibérations, mais de discuter sur les mécanismes, trouver des mécanismes, c'est quelque chose qui est difficile parce que cela appartient à deux niveaux. Le niveau de la construction et le niveau de la politique. Mais c'est à vous de le voir. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Quel type de mécanismes peuvent être utilisés pour aller contre donc cette possibilité de capture des volontés ou capture de la part de certains groupements, de certaines unités constitutives ou de certains intérêts. Donc, nous avons des AC et des SO, d'accord, mais hier, j'ai eu l'occasion de siéger, de participer à une réunion dans laquelle la communauté est commentée. Il s'agissait de directives que l'on commentait il y a quelque temps. Olivier, aidez-moi, Olivier, prends la parole. Je n'étais pas à cette réunion, mais bon, j'étais dans cette réunion. Mais c'était une question de politique, des problèmes de politique qui affectaient en réalité les gouvernements, les mécanismes de gouvernement corporatif. Et ce que j'ai vu, c'est que lorsqu'ils développent ces politiques, le dernier résultat, c'est les enchères. Et même si des communautés, du point de vue d'être large, parlent de ces, tiennent compte de ces communautés qui n'ont pas nécessairement les financements qui leur permettraient de participer à ces ventes aux enchères, pour, de toute façon, il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour éviter ce type de capture. Il y a l'ombudsman, vous avez raison, Rolly l'a dit. Elle a parlé de sa juridiction qui est très limitée. Il faudrait peut-être revoir cette question de la juridiction de l'ombudsman, mais je ne pense pas que, en termes de capture, hein, l'ombudsman soit vraiment la personne indiquée. Je ne sais pas trop qui peut s'en occuper, mais je crois que c'est quelque chose dont nous devrions discuter. Merci. Merci, Salah. Olivier Crépin-Leblanc reprend la parole. Maintenant, il donne la parole à Garth Bruen. Garth Bruen, président de Naralo, reprend la parole. Je voudrais reprendre un point que Evan a abordé concernant les plaintes et autres problèmes dans lesquels ICANN n'a pas pu agir correctement. Et je sais qu'il y a eu des plaintes qui ont été rejetées. Et ce n'est pas toujours le cas de... Ce n'est pas toujours parce que le problème a été laissé de côté parce qu'on n'a pas pu le résoudre. Ce que nous voyons aussi, c'est que des personnes hein, qui appartiennent au personnel ne se plaignent pas alors que et refusent des plaintes alors qu'on devrait et donc laisser ces plaintes suivre leur cours. Hein. Il y a aussi des questions de des problèmes de langue et je constate que quelqu'un qui participe à ce processus, je ne parle pas de l'utilisateur d'Internet ordinaire ou du registre ordinaire qui ne comprend pas le processus. Dans ce contexte-là, ICANN est vraiment défaillant. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est important parce que c'est les relations avec le GAC, les relations des problèmes avec le conseil. Et moi, ce que je fais, c'est que je représente des gens qui ne peuvent pas être entendus ou qui ne seront pas entendus. Et j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir et qui me disent que ICANN ne les écoute pas. Et voilà, ça c'est l'expérience que j'ai. Et merci. Merci, Garth, dit Olivier. Et vous suggérez donc une modification du mandat de la TRT parce qu'il y a une section qui dit comment est-ce que les choses devraient être faites pour le prochain cycle, pour la TRT 3? Est-ce que vous suggérez un changement de mécanisme? Oui, tout à fait. Et un mécanisme qui serait un test hein, de tous les processus et que le public doit, et donc par lequel le public doit passer hein, l'interface, les différentes interfaces avec ICANN, entre l'utilisateur final et ICANN, et comment est-ce que les résultats peuvent répondre ou pas aux attentes de ce public. Evan Lebovitch, vous avez la parole. Oui, Evan Lebovitch prend la parole. En ce qui concerne la conversation d'Alak avec le Conseil ce matin, un des thèmes qui, à mon avis, a été le plus intéressant était la considération du service d'assistance du client d'ICANN. Et si on prend le fait que le président directeur général nous dit que l'utilisateur d'ICANN est le dernier client d'ICANN, comment est-ce que ICANN traite ses clients à travers son interface client et pour les utilisateurs finaux? Il s'agit ici, nous avons ici un département de plainte ou bien est-ce que c'est un problème de culture qui devrait changer la façon d'ICANN de traiter ces choses et de ne pas transformer tout cela en silo? Je voudrais, Holly Wright, je reprends la parole, je voudrais reprendre un point qui a été abordé ce matin dans nos discussions avec le Conseil. Il y a eu un débat sur les politiques. Est-ce qu'il s'agissait de politique? Est-ce qu'il s'agissait de mise en œuvre? Où était le problème? Et donc, les implications qui existaient au niveau des politiques, s'il s'agit de politique, s'il s'agit donc... il y a eu deux commentaires là-dessus. On disait qu'il était peut-être plus important de faire participer les gens et non pas de définir tant les barrières. Mais il y a un troisième processus ici qui est l'élaboration de politiques et leur mise en œuvre. Et c'est entre donc la conception, hein, on a encore besoin d'expertise publique et il faut laisser la mise en œuvre. Hein, il faut s'assurer que la politique et la conception de cette politique, hein, peu importe le processus, mais que la politique et la conception de cette politique répond bien aux nécessités du public. Il me semble que Tijani voulait prendre la parole, non? Alors, Carlton Samuels, vous avez la parole. Merci, Olivier. Carlton Samuels prend la parole. Vous savez, et je voudrais reprendre cette question de la conception et des politiques à aborder, Holly. Dans des conversations, à plusieurs reprises, nous avons entendu dire que le problème de la politique versus mise en œuvre et la déconnexion qui existe entre les deux est exacerbée par l'absence d'une conception, d'une phase de conception de ces politiques. Et je me demande ce que la TRT pense de cela. Voilà. J'aimerais un petit peu entendre leur opinion à ce propos. Merci, Carlton, dit Olivier. J'aimerais que les membres de la TRT et nous répondent à cette question, prennent la parole ici sur ce point ou sur le point qui vous intéresse. Bien, vous pouvez rester quelques instants de plus. Bien. Et on passe aux questions suivantes et on répondra après. Donc, Renali Abdulrahim, vous avez la parole. Merci. C'est à propos de la politique de la mise en œuvre. Je trouve que le débat au sein d'ICANN est très intéressant à ce propos parce que moi, j'ai étudié la politique publique. Je m'y connais en théorie politique. J'ai travaillé dans un gouvernement pendant 3 ans. C'est là que j'ai commencé ma carrière. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on parle de disconnexion, de déconnexion entre la politique et la mise en œuvre. Et si vous vous y connaissez en cycle de développement de politique et en théorie politique, on commence par l'élaboration d'un programme, par la formulation des politiques. C'est la partie de la conception. On définit ce qu'est le problème et on commence à formuler des options de politique pour répondre au problème défini. Et ensuite, on prend la prise de décision, on choisit une de ces options et on passe à la mise en œuvre. Dans tous les types de situations, la déconnexion qui existe entre la conception des politiques et la mise en œuvre existe parce que personne c'est-à-dire les gens qui étaient dans la conception n'ont pas participé à la mise en œuvre. Hein. Voilà. Donc je ne parle pas du contexte d'ICANN, mais le besoin d'avoir un pont, hein, une passerelle, hein, entre la conception et la mise en œuvre des politiques. Quelqu'un qui ait eu cette vision des politiques et qu'il participe à la mise en œuvre pour être sûr que l'intention et l'esprit qui étaient dans ces politiques soient mis en œuvre réellement sur le terrain par la suite. Et Olivier reprend la parole. Merci pour vos pensées, Renalia. Est-ce qu'il y a d'autres contributions de la part d'Atlarge? S'il n'y a pas de main levée, Brian, vous avez la parole, vous et votre équipe. Bien, merci. Et il y a une autre question, mais notre équipe pense à la possibilité de prioriser certaines recommandations et la façon dont on le décrit, ce n'est pas une question d'importance, mais c'est une question d'urgence de ces recommandations. Il nous faut vraiment les recommandations qui sont urgentes à mettre en œuvre. Est-ce que vous pensez, à votre avis, est-ce qu'il y a une priorisation à donner? Est-ce que vous avez des recommandations concernant la priorité à donner à certaines, donc des recommandations de la TRT de Renalia, vous avez la parole. Renalia Abdulrahim reprend la parole. À mon avis, la recommandation sur la participation globale est importante parce qu'elle affecte le PDP, de la GNSO, de l'organisation et dans son ensemble de l'ICANN et puis la question des langues aussi. Merci, Renalia. Alain Greenberg, vous avez la parole. À propos du problème de mondialisation de participation, la recommandation qui était faite dans la version préliminaire était assez intéressante. Quand on parle de problème, personne n'a une réponse simple. La recommandation est, nous devons commencer une discussion pour voir quels sont les problèmes qui existent, parce que ce n'est pas clair. Par exemple, est-ce qu'il y a un manque de participation au PDP parce que les gens ne sont pas là, ou parce qu'ils sont là et qu'ils choisissent de ne pas participer? Et comment est-ce qu'on traite ce problème, bien sûr? Et la deuxième question importante, est-ce que vous suggérez que l'urgence implique que nous devons laisser de côté ces discussions ou que nous devons être plus agressifs concernant l'objectif pour essayer de mieux nous adapter à ces... Non, je pense qu'il faut être plus objectif, dit Rina Alia, pour établir le problème. D'abord, il faut établir quel est le problème et ensuite, il faut corriger cela. Excusez-moi, dit Olivier, c'est une conversation entre Rina Alia et Alan et vous n'avez pas donné votre nom, ce qui est un gros problème pour les transcriptions. Donc, donnez votre nom, s'il vous plaît. Alan, vous vouliez dire autre chose? Alan Greenbeck reprend la parole. Oui. Je vous ai donné un oui ou non et vous m'avez dit oui. Donc, l'implication pour la TRT, l'équipe de révision préalable, les trois ont établi des objectifs qui, à la fin, étaient tout à fait impossibles à être appliqués. Ce sont des choses qui n'ont pas pu être faites. Donc, il faut essayer d'éviter cela. Mais cependant, j'ai un petit problème pour évaluer un objectif, dire régler le problème quand on ne sait pas comment régler ce problème. Et donc, ça, c'était la question que je voulais vous poser. À cette phase, on a commencé la discussion pour comprendre le problème. On essaye de comprendre comment régler ce problème. Ensuite, on dit à quelqu'un, essayez de régler ce problème. C'est pas pareil. Ma perspective, c'est que la communauté doit essayer de participer davantage et de discuter de ce problème et de le comprendre pour pouvoir le résoudre ensuite. Carlton Samuels, vous avez la parole. Carlton Samuels prend la parole. Je voudrais reprendre sur ce qui vient d'être dit à propos des priorités à donner. Parmi ces priorités, je suggérerais que finalement nous parlons de la participation des parties prenantes et du développement de politique. Et je pense qu'on a produit, cette équipe a produit un rapport qui contient beaucoup de données validées, qui montrent la distribution de la participation au processus de développement de politique. Quand je dis processus, je parle de la participation au groupe de travail, je parle au groupe de travail aussi, etc. Toute cette participation. Il me semble que c'est une bonne contribution qui est validée et qui est valable. Donc, voyons ce que l'on peut faire maintenant en termes de réponse et de priorité en se basant sur une trajectoire qui était incluse dans ce rapport parce qu'ils identifient certains des problèmes qui empêche la participation au-delà de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Et cela est fait dans ce rapport. Donc, à mon avis, si nous adoptons le cas où la participation globale est importante, si l'on adopte le cas où il y a moins de participation de certaines régions du monde et qui ne sont pas l'Europe et l'Amérique du Nord, et si nous voulons résoudre ce problème, je pense que nous avons déjà une bonne base pour commencer à travailler et dire, voilà, il y a une série de choses que nous pouvons faire immédiatement pour commencer à modifier les choses. Et là, je pense que je soutiens Rina Alia dans ce qu'elle a dit. Et si l'on regarde les priorités à donner au sein des priorités, on peut trouver une façon d'avancer. Merci, Carlton. Vous voulez identifier donc les premiers points et dans ces recommandations donc urgentes. Alan, vous voulez prendre la parole? Alan Greenbeck prend la parole. Je voulais suggérer que si vous pensez qu'il y a des choses spéciales qui peuvent être faites, qui sont pratiques et qui vont nous permettre de régler les problèmes, s'il vous plaît, faites-le dans vos commentaires. Merci, Alan. J'ai donc eu plusieurs personnes dans la queue, Holly, Salanieta et Rinalia. et Evan Lebovich. OK. Salanieta Tamani Kaiwai Maro. Excusez-moi. Holly Wright, d'abord, prend la parole. Je pense qu'une façon rapide serait de comprendre d'abord le rôle de l'ombudsman pour s'occuper des plaintes au lieu de travailler, de pouvoir régler seulement 20% de ces plaintes. Comment résoudre ce problème? Comment est-ce qu'on peut aider les gens qui, théoriquement, appartiennent à la juridiction de l'ombudsman et qui pourtant ne vont pas avoir leurs problèmes résolus par cet ombudsman? Comment régler cet aspect du problème? Olivier dit merci beaucoup et il donne la parole à Salanieta. Salanieta Tamani Kaiwemara prend la parole très rapidement. Je sais que vous avez demandé quelles recommandations devaient être priorisées, mais je voudrais ajouter et que ce n'est pas une recommandation, mais une considération qui, à mon avis, est liée à cela. Et il s'agit du fait que lorsque l'on s'engage dans les considérations, dans les recommandations qui ont été donc rédigées, je voudrais qu'on fasse une différence entre ce qui a lieu actuellement à ICANN. Et puisque nous sommes dans une phase de réforme massive, surtout dans le domaine des PDP et du travail intercommunautaire entre les regroupements, il faudrait voir aussi comment les recommandations que vous développez vont affecter aussi ce processus futur. Donc, on risque ici d'avoir, au lieu un autre groupe de travail qui doit de nouveau devoir vérifier les mécanismes, et surtout ce qui concerne le PDP. On ne nous donne pas assez de temps pour demander des commentaires à nos communautés. Et donc, c'est en train de devenir un problème, à mon avis. Merci. Merci, Salanieta. Et avant de continuer, je voudrais dire aux gens, donner la parole aux gens qui sont dans la salle et leur dire que s'ils veulent faire des commentaires, ils peuvent les faire. Nous avons un micro tournant si vous voulez prendre la parole. Et la même chose pour les personnes qui participent à distance, les participants à distance. Est-ce que nous avons des questions? Non, pas pour le moment. Bien. Et les personnes qui sont dans la salle aussi, personne. Donc, parfait. On continue. Et nous avons maintenant Renali Abdoulrahim qui prend la parole. Merci, Olivier. Est-ce que je dois dire mon nom une fois que vous l'avez prononcé? Olivier reprend la parole. Des fois, je donne votre nom, des fois, vous le donnez. Merci, Olivier. Renali Abdoulrahim, c'est une pensée. Je pense que chez ICANN, en général, nous avons peu de convergence ou d'alignement concernant les initiatives et en termes de problèmes et de traitements ou de manière de régler le problème de la participation globale et du processus de développement de politique, on pourrait peut-être regarder les stratégies d'engagement au niveau régional comme une manière d'avoir cet engagement et de le concrétiser ou de commencer des discussions qui, selon Alain, est plus quelque chose de plus approprié pour régler les problèmes qui sont longs à résoudre. Et je pense aussi que ICANN devrait travailler au niveau de la région, au niveau des consultations de problèmes, pour ensuite passer au niveau global. Ce n'est pas ce que nous faisons actuellement. Nous ne pouvons pas avoir de solution si l'on ne travaille pas comme ça. Je ne peux pas me lever à 3 heures du matin pour avoir des téléconférences. Pour moi, c'est quelque chose de terrible. Après, je ne peux pas travailler de toute la journée, de toute la semaine. Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas que ce ne soit pas efficace, mais c'est trop compliqué. Donc, si vous voulez une participation, il faut aller voir les gens où ils se trouvent. Il faut trouver des mécanismes pour les réunir et pour les faire participer. Merci. Merci, Renalia. Nous avons une main là-bas, bien. Je sais que Evan est toujours dans la queue, dit Olivier Crépin-Leblond. Donc, nous allons donner la parole à une personne qui est dans la salle. Voyons. En attendant que le micro vous parvienne, nous allons demander à Evan de prendre la parole. Evan Leibovich prend la parole. Merci, Olivier. Je voudrais en revenir à la question des priorités. Je voudrais avoir une approche légèrement différente et suggérer qu'une des priorités soit le travail et pour avoir une activité au niveau intercommunautaire à travers des groupes de travail ou autres. Et puisque le rôle du programme de TLD est aussi... Il y a des différences qui arrivent. Il y a les pics, par exemple. Il y a des différences dans le guide du candidat. Il pourrait y avoir d'autres, des petites modifications qui permettraient de corriger. Et certains avis du GAC aussi pourraient le faire. Aussi, des avis provenant de sources externes aussi. Hein, et à mesure que ces solutions sont appliquées, et je pense qu'il faudrait qu'il, je pense que ce serait une façon utile de faire participer, qu'il devrait y avoir une façon aussi de faire participer la communauté à l'extérieur des PDP, par exemple. ICANN est maintenant dans une position dans laquelle personne ne veut changer le guide du candidat, mais je pense que les choses, au lieu de s'arranger, vont aller de pire en pire. Et je crois qu'à court terme, si c'est une question de priorité, il faut trouver un moyen de faire participer davantage la communauté et d'avancer dans ce sens, d'avoir des groupes de travail intercommunautaires ou un système comme ça. Il faut qu'il y ait un cadre qui permette à la GNSO, mais aussi aux autres communautés, d'exprimer leurs besoins. Et le personnel aussi doit mettre en œuvre ce type de choses. Hein. Le problème peut être résolu par le processus des pics. D'abord, Olivier hein, a participé à la conception de ces pics hein, et cela peut être, ils seront peut-être utiles. Merci, Evan. Je voudrais reprendre, dit Olivier Crépin-Leblond, je voudrais reprendre ce que tu as dit et proposer quelques suggestions pour qui pourraient... Parce que finalement, il y a des actions d'ICANN qui vont... Peut-être que vous préférez une structure plus... verticale plutôt qu'une structure hiérarchique, Evan Leibovitch. Oui, je voudrais une structure qui reflète vraiment la structure de la communauté telle qu'elle est, avec un calendrier dans le temps. Parce que finalement, si l'on dit, OK, on doit avoir le temps de consulter les RALO, les ALS, les éduquer, les rendre conscients des problèmes, pour qu'ils puissent ensuite venir nous voir et nous donner des bonnes politiques qui reflètent ce dont ils ont besoin. À cette étape, je pense que cela est possible. Et donc, nous devons trouver quelque chose qui va nous permettre de fonctionner comme ça, pour que ce travail soit fait, et pour ne pas exclure la communauté. Est-ce qu'on va avoir une représentation complète? Je ne pense pas. Je pense que nous servons très mal les ALS, parce qu'elles sont très rarement consultées sur des problèmes graves, à cause des problèmes de calendrier que nous avons, de chronogramme que nous avons. Donc, je crois qu'il faudrait essayer de corriger cela au cours de ce cycle de TLD. Le PIC n'est peut-être pas la dernière solution à appliquer. Je pense qu'il doit aussi y avoir une manière de mieux refléter la communauté et son opinion et dans ce domaine. Merci beaucoup, Evan, dit Olivier. Je crois que nous en sommes... Nous avons presque fini notre session. Il y a une pause ensuite, donc la salle n'est pas vraiment occupée. Est-ce que vous êtes d'accord pour prolonger la session? Nous avons plusieurs mains qui se lèvent. Un commentaire? Oui, si vous voulez répondre directement, allez-y. Allez-y. Alain, nous allons faire un rapport qui va sortir. Ensuite, il faut espérer que le Conseil l'accepte. Et ensuite, nous allons passer plusieurs années à mettre en œuvre ces avis. Donc, nous devons être sûrs que nous n'attendons pas de solutions présentées et qu'ensuite les problèmes soient directement réglés aussi rapidement que ça. Merci, Alan. La prochaine personne.
Evan, je vous ai couvert, n'est-ce pas? Donc, on a Siva Subramanian maintenant. Maintenant, c'est Siva Subramanian qui prend la parole. Je pose une question en tant qu'individu. La TRT a un processus de confidentialité et un processus de contribution publique. Il y a des gens qui participent à la TRT. Donc, est-ce qu'un processus auquel la TRT doit répondre? C'est-à-dire, si ils fournissent des feedbacks sur ce qui sont donnés à travers une routine de réception, et puis la TRT fait un rapport. Et dans ce cas-là, est-ce que ça inclurait un résumé, des contributions? C'est juste des questions pour clarification, parce que je ne comprends pas. La réponse est qu'on n'a pas une réponse automatique pour répondre à tous les emails qu'on reçoit. On fait des commentaires, des contributions, on répond de façon active par leur intégration à nos rapports. Dans nos rapports, vous verrez qu'on cite les commentaires que l'on reçoit, soit à travers des commentaires formels ou à travers des emails. Dans les notes en bas de page, on met aussi les emails, parce qu'on a besoin de conclusions qui se basent sur les faits. On parle à la communauté, à l'ICANN, mais on va montrer ce travail de cette façon. Les commentaires, en fait, ne sont pas tous inclus. C'est pas qu'on va tous citer. On cherche, en fait, à avoir des citations qui soutiennent la conclusion et on les inclut dans notre rapport. Mais c'est ainsi qu'on montre à la communauté qu'on a entendu ce qu'ils avaient à dire. Seva Subramanian, mais quel est le feedback qu'on reçoit? Est-ce que vous envoyez un email? Brian? Non, Alan qui prend la parole. Par rapport à la confidentialité, puisque vous pouvez voir un wiki ou un site web et voir si on a reçu vos messages, on a essayé, j'espère qu'on a réussi à envoyer une note de réception à la personne qui l'envoie. Mais on ne donne pas un feedback spécifique sur la question qu'il y avait. Mais on a essayé et peut-être réussi à vous faire savoir qu'on a reçu les commentaires. Merci, dit Seba. Olivier Crépin-Leblond dit merci, Alan. Maintenant, on a Attenpeak.
Good afternoon, Adam Peake.
Bonjour, je suis Adam Peake. Une question rapide. TRT a mentionné l'intérêt public. Et je me demandais si vous avez défini quel est l'intérêt public dans l'ICANN et si vous le feriez. Parce qu'apparemment, c'est une question qui apparaît très fréquemment. Et est-ce que vous avez commencé à poser cette question de l'intérêt public au sein de l'ICANN?
The answer is we have discussed that issue and...
On a discuté cette question et l'équipe a atteint un consensus ou un accord en tout cas, et ils sentent que ce n'est pas approprié ou qu'il n'est pas bon que la TRT définisse ce qu'est l'intérêt public. Dans la TRT 1, dans le rapport, ils avaient discuté l'intérêt public et son rôle, et c'est reflété dans ce rapport, mais la définition d'intérêt public, qui est en fait quelque chose d'opérationnel, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire. Merci Brian, dit Olivier. Y a-t-il d'autres commentaires, questions, suggestions? Des commentaires? Non? Brian? Brian qui prend la parole, je voudrais reprendre deux points qu'on a mentionnés auparavant. Carlton a posé une question sur la mise en œuvre du rapport, et le rapport de la TRT2 n'a pas de directive ni de recette pour répondre ou clarifier ou définir même la question, mais le rapport reconnaît que c'est toujours un problème, une question importante qui n'est pas claire et reconnaît certains des problèmes qu'on peut présenter à la communauté. Mais la recommandation est là pour encourager le travail continu de toute la communauté pour définir des points entre les personnes qui conçoivent les politiques ou qui les mettent en œuvre pour encourager le travail de la communauté. Donc, on n'est pas prescriptif sur ce travail spécifique. Alan dit, mais dans la recommandation du PDP, on demande explicitement au Conseil de clarifier quelles sont les conditions dans lesquelles le Conseil agira sur les recommandations si la communauté ne l'a pas fait, et quelles sont les conditions dans lesquelles le Conseil pense qu'ils peuvent ignorer la communauté dans les décisions de politique que la communauté a adoptées. Olivier Crémin-Leblond, alors Brian, Brian qui reprend la parole. Je voudrais suivre ce que Renale a dit. Il a fait un commentaire sur le fait qu'à mesure qu'on publie les problématiques ou les processus de politique, chaque sujet devrait être accompagné d'un processus de formation, de renforcement de compétences ou de sensibilisation. Je voulais parler de ce qu'on a mentionné lors de notre dernière réunion sur le fait que ce que les équipes publient, l'équipe, le personnel doit vous donner ces nouvelles et au lieu de ne pas créer une question, de ne pas présenter une question d'une certaine manière. Donc, je vous rends la parole pour savoir, pour ce qui est des commentaires, comment l'ICANN ou la communauté pourrait créer ces éléments de renforcement de compétences ou ces aspects de sensibilisation pour les annonces de politique, les annonces et les procédures, si vous avez des suggestions sur ce qui devrait fonctionner. C'est quelque chose qu'on pourrait ajouter à notre rapport potentiellement. Renale Abdelrahim, je peux répondre? Oui, Renale a dit Olivier. Merci Olivier, je suis Renale. Ce qui a fonctionné, même si le niveau de participation n'est pas le niveau souhaité, est que les séminaires web qui ont été organisés pour des sujets spécifiques sont très utiles pour comprendre quelles sont les questions. Et ce n'est pas nécessairement des questions qu'ils présentent, c'est juste qu'on trouve le sujet pertinent sur la question même et ce qui le fait en renforcement de compétences et qu'on peut ajouter des différents points de vue sur une question particulière à travers un panel qui mènerait la discussion. Mais ça pourrait être un processus en deux étapes où on pourrait présenter le sujet, les personnes vont le considérer et puis revenir, recommuniquer avec le mécanisme dont on s'est servi. C'était un format de séminaire web en table ronde. Cela fonctionnerait. C'est juste pour approfondir les pensées des gens sur ce qu'on pourrait faire et on pourrait le faire en ligne et en face à face lorsque vous avez l'occasion. Merci. Merci Renale, a dit Olivier. Alan Greenberg. Alan dit que c'est une idée intéressante. Je viens de comprendre ce que vous avez dit comme une partie d'un appel à participation préalable à cela, qui veut dire qu'on devrait faire des informations, on devrait donner des informations aux gens pour qu'ils comprennent de quoi on discute. C'est ce que vous dites? C'est intéressant. Merci, dit Olivier. Et Renale a hoché la tête pour le procès-verbal, donc c'était oui. Bien, je pense qu'on a eu une bonne discussion ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Brian? Brian dit non, de très bonnes contributions. Merci beaucoup, c'est très robuste et très utile. Et je veux vous rappeler que la période de commentaires publics ou la période de réponse finit le 30 novembre. Si vous ne l'avez pas fait, ignorez les formalités, on sera content de recevoir des commentaires, donc faites-les. Merci, Olivier. Cette séance vient de finir, vous pouvez aller prendre votre café. Merci, et merci aux interprètes d'avoir rattrapé avec ce qu'on a dit. Merci.
Olivier, can like, tomorrow? It doesn't need to be at the same time. The video.